Jordan pose la question, comment travailler sa Yiret Shamaim, sa crainte du ciel? C'est une question extrêmement dure, parce que il y a deux sortes de Yiret Shamaim, deux sortes de crainte du ciel. Une à propos de laquelle le Misat Yesharim, Ramchal, dit, il n'y a rien de plus facile à acquérir que cela. C'est la Yiret Haonesh. La crainte de la sanction. Il est vrai que la Torah parle de sanction. Dans Kriyat Shema, on dit, si vous quittez la Torah, vous servirez d'autres dieux, Dieu sera en colère, et il vous chassera de la terre, et etc., etc., etc. Et la Torah a beaucoup de malédictions. J'ai l'habitude de dire, et je le répète ici, c'est crétin de dire qu'il y a dans la Torah des sanctions. Ah, mais on voit qu'elle parle de la Torah, parle de sanctions. Réponse. Il n'y a pas de sanctions. Il y a des conséquences. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Parce que la notion de sanction est vraiment enfantine. Un enfant, on doit lui dire, touche pas à ça, sinon tu auras une tannée. Mais quelqu'un d'adulte, non. Alors on nous parle comme des enfants. Tu fais, tu auras tout ce qu'il faut. Tu fais pas, oi va voy, gare à toi. Dorolamazé, olamaba. C'est enfantin. Il est vrai que la Torah parle un langage enfantin, parce qu'il faut parler aux enfants aussi. Mais elle compte sur nous, qu'on est intelligent de savoir qu'elle parle un langage enfantin et qu'on sait traduire aussi en langage adulte. Le problème, c'est que très souvent, on enseigne le langage enfantin. Et les gens quittent l'école enfantine et ils restent avec le langage. Ils deviennent adultes, mais en ce qui concerne la Torah, ils restent enfants encore. Et ils comprennent, ils n'arrivent pas à comprendre que la Torah peut être un peu plus intelligente et parler avec beaucoup, beaucoup de profondeur. Alors il est clair que lorsque la Torah parle de sanctions, elle ne parle pas de sanctions. Elle parle de conséquences. À quoi cela ressemble? Quelqu'un qui prend 1 mg de cyanure de potassium. C'est une sorte de poudre que je ne vous conseille pas d'avoir chez vous à la maison. Parce qu'on met 1 mg sur la langue, après moins d'une seconde, on n'est plus de ce monde. C'est un poison extrêmement violent. Est-ce qu'on peut dire, quelqu'un qui a fait ça, il est mort? Est-ce qu'on peut dire, il a été puni parce qu'il a avalé du poison? Il a été puni? Non. Il y a des lois qui gèrent le corps. Tu prends du poison, tu crèves. C'est pas, c'est une conséquence logique. Quelqu'un a roulé en Ferrari. Il est à 200 km à l'heure. Ferrari, tu as les vitesses comme ça. Donc, tu as. Puis, il y a un R, comme reverse. Il fait tic. Reverse. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, la boîte à vitesse, elle fait schlong. Ouais. La voiture, elle part doucement dans le décor. 1 million d'euros. Wallo. Et je ne comprends pas. J'ai rien fait. 2 cm. Comme ça, j'ai fait. Cher ami, il y a des lois qui gèrent. On va dire qu'elle a été punie. Il y a des conséquences de tes actes. La Torah. Comment dire la Torah? La Torah dit une seule chose. On peut vraiment. Le grand résumé de la Torah, c'est dire une seule chose. Torah signifie mode d'emploi. L'enseignement de comment ça marche, le mode d'emploi. Tu as la Torah d'une caméra, la Torah d'un micro, la Torah de moi. Qui suis-je? Comment ça fonctionne? La Torah me dit que tu n'es pas qu'un être physique. Tu as une réalité qui est psychique. Psyché, en grec, signifie âme. Tu as une âme. Tu as une réalité qui est métaphysique, qui est l'essentiel de toi-même. Et par tes actes matériels, tu peux agir sur ton psyché, sur ton âme. Et là aussi, peut agir sur ton psyché. C'est interactif. C'est ça toute la Torah. La Torah me dit, fais des actes. Pourquoi quand je mets maintenant un cube de cuir avec dedans des parchemins qu'on a écrit des lettres dessus, ça agit sur mon psyché? C'est une chose qui, rationnellement, est dure à comprendre. C'est ça l'enseignement de la Torah. Il y a 613 lumières spirituelles que lorsque tu fais des actes physiques, alors cette lumière spirituelle rentre dans ton âme. On va dire que ça marche comme ça. L'acte physique que tu fais agit au niveau du psyché pour ouvrir certaines vannes et ça amène un flux de lumière dans ton âme qui après revient en ricochet dans ton corps aussi. Aujourd'hui, la médecine est d'accord de dire que la majorité, si pas toutes, ça dépend des écoles médicales, mais toutes sont d'accord que la majorité, ou voire toutes les maladies, sont d'ordre psychosomatique. Ça veut dire que la source est dans le psyché, psychosomatique, t'as une conséquence. Tu auras un symptôme qui va apparaître dans le corps. Paradoxalement, la médecine classique qui ne sait pas soigner le psyché parce qu'elle n'y connaît rien, elle soigne le corps. Mais elle conçoit qu'elle ne fait que soigner le symptôme. Elle n'a pas soigné la cause. La cause est dans le psyché. Elle reconnaît ça. La Torah te dit, quand tu feras ces actes-là, tu vas soigner ton psyché. Ton psyché ira bien. Normalement, le corps aussi doit aller bien après. Il arrive aussi que tu as des grands tzadikim qui sont malades. Ça arrive aussi. Non, mais ça fait partie. Bon, ça c'est plus profond. Pourquoi, qui, quoi, comment? On est en période d'obscurité. Il y a aussi une question de responsabilité civile. Il y a aussi la responsabilité collective. Il y a une notion aussi de Issoué avant. On veut beaucoup plus. Alors par cela, on peut avoir beaucoup plus. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il n'y a jamais de punition. Quand quelqu'un transgresse un péché, il amène dans son âme une puissance négative qui va avoir ses effets après aussi au niveau physique. C'est pas une punition, c'est une loi. La loi, la Torah, l'enseignement vient me dire, regarde comment ça fonctionne. Il y a une interdépendance, c'est interactif. Lorsque tu agis en bien, ça amène du bien. Quand tu agis en mal, ça amène du mal. C'est pas que Dieu est là-haut, il te punit. Il y a, comment ça fonctionne? Comme le petit peut poser la question, je ne comprends pas pourquoi un peu de poudre blanche mise sur ma langue, à cause de ça, quelqu'un meurt. Où est le rapport? Parce qu'il a bougé maintenant sa manette là, de vitesse de 3 cm à cause de ça, $1 million, une Ferrari qui part dans le décor. Je ne vois pas la raison de cause à effet. Mais si on lui explique, ben, mon vieux, il y a la boîte à vitesse, tu fais reverse à 200 km à l'heure, ben, c'est logique. Parce qu'on comprend la mécanique. Il fait l'étude de médecine. Actuellement, j'ai très mal au mollet. J'ai une inflammation. Tu vois le médecin hier, il m'a donné inflammation. Bon, il m'a donné un médicament que j'espère avoir ce soir. Mais comment le médicament, il s'est allé soigner mon mollet? Comment le médicament, il s'est allé soigner mon mollet? T'as mal à l'oreille, tu prends tac, un truc contre l'oreille. Si on n'était pas habitué au monde médical, on dirait c'est n'importe quoi. Alors on sait que ça marche, on ne sait pas comment ça marche, mais on sait que ça marche, on leur fait confiance. Si je demande au médecin, il dit, oui, vous rigolez ce petit machin, et c'est aller dans mon mollet. Écoutez monsieur, allez faire 10 ans de médecine, vous apprendrez, oui, il y a une Torah, la Torah de la médecine, l'enseignement, le mode d'emploi, comment ça fonctionne, la médecine, la relation de cause à effet entre le produit que tu avales et la maladie, qui a une relation de cause à effet. La Torah de nous, elle va nous enseigner les modalité, pour parler en bon français, d'accord, causale de notre action sur notre bien-être. Ça passe par la Neshama. Oui. Pardon ? Aussi. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement brouillé parce qu'il y a... Je n'ai pas compris ta question. Si quelqu'un maintenant se comporte bien, il ira bien ici, tu veux dire ?
Non,
oui. Alors, il y a des fois aussi où ça dépend quelle maladie et quelle âme et quelle personne. Parce que quelqu'un va faire un acte mauvais ici, le mal reste là-haut et on s'occupera, il se dévoilera à une autre époque sur la personne. C'est pas forcément qu'il y aura une conséquence directe de nos actes, en bien ou en mal. Surtout pas à notre époque où Dieu, pour nous préserver, sème l'obscurité. Il fait qu'on ne peut plus... À l'époque où Dieu était très dévoilé, on voyait très bien comment en faisant un acte positif, on a mis du bien, en faisant un acte négatif, on a mené du mal. Mais cela nous mettait dans une situation extrêmement délicate par rapport à Dieu, que si les gens faisaient le mal, on était extrêmement coupable. Parce que quelqu'un, maintenant, il fait Chilul Shabbat, il regarde une fille, il fait Bitul Torah, d'accord? Tout à coup, tard, ça va très mal, boah, des malheurs terribles sur lui, sa famille, les gens, Amisa, parce qu'on est tous dans la même barque. Il est extrêmement coupable. Il le fait quand même, mais il mérite la mort. Maintenant, quand tout Amisraël fait ça, Dieu décide, écoutez, messieurs, moi je me dévoile, vous savez très bien que vous faites le mal, en connaissance de cause, vous allez faire ça, ben, vous ne méritez pas la vie. Le résultat, donc encore une fois, ce n'est pas une punition, les conséquences sont terribles. Dieu nous aimant beaucoup, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il voit que le peuple ne se comporte pas au niveau requis, par rapport au dévoilement de Dieu, Dieu se voile. Par cela, ça donne une très grande, un très grand plaidoyer de défense sur Amisraël. Après tout, les Juifs ne se rendent pas compte qu'en faisant ces actes-là, en fait, ils font du mal. Preuve en est qu'on fait le mal et on ne voit pas directement comment ça se passe. Donc, il faut comprendre que c'est le phénomène qu'on appelle la baisse des générations. Plus on s'éloigne, plus Dieu est obligé, plus on se comporte moins bien, plus Dieu est obligé de, quelque part, s'éloigner et moins dévoiler sa conduite du monde. Aujourd'hui, où Baruch HaShem Amisraël commence à revenir, on commence à voir aussi un redévoilement de Dieu. Lentement, on commence à voir des miracles, des choses. Et on peut voir qu'il y a, aujourd'hui, je suis très loin de mon sujet sur la Yirat Shamayim, mais c'est en passant, d'accord. Aujourd'hui, si tu prends au niveau de la société, d'accord, tu prends la société orthodoxe israélienne, qui est, je précise pour pas qu'on m'embête après, qui est une société bourrée de problèmes. Bourrée de problèmes aigus et difficiles. Oui, mais, relativement, en comparaison, c'est une étude comparative, chiffres à l'appui, tu prends n'importe quelle autre société occidentale, d'accord, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. À côté, mais c'est la débandade totale. Débandade totale. Qu'est-ce qui leur reste? L'éducation nulle. La débauche, les tromperies, il n'y a rien, le shit. Mais c'est presque anormal quelqu'un qui n'ait pas goûté du shit à 25 ans. C'est presque anormal. Une jeune fille qui a 18 ans, elle est encore vierge, elle a un problème. Un garçon à 18 ans, et ça, il va avoir le psy, d'accord. C'est pas normal. Les enfants ne respectent pas les parents. Tu prends les totaux, tu regardes, drogue, schlumbite, divorce, moralité au niveau du vol, etc. Crise de sens, déprime, violence, suicide. Oui, mais moi je connais aussi un orthodoxe, c'est un tordu sexuel, et puis un autre s'est suicidé. Oui, il y en a. Oui. Et je connais un type, il est non religieux total, et c'est un type, un vrai sadique. Oui. Je veux les totos. Je veux les totos. Regarde, fais étude comparative. Mon orthodoxe. Alors t'as des déprimés, il y en a. T'as des obsédés sexuels, t'en as. Mais combien? T'as des tromperies, t'en as. Combien? Violence, t'en as. Combien? C'est à peu près, faut inverser les chiffres. D'accord? T'as 2% de population occidentale qui n'a pas goûté un peu de shit, t'as 2% d'orthodoxes qui ont goûté du shit. T'as, on va dire, 90% des maris et femmes qui se trompent, t'as 10% qui ne se trompent pas, dans le monde orthodoxe, c'est à l'envers. 10% qui se trompent, ben, je suis gentil quand je sais beaucoup moins que ça, et 90% qui ne se trompent pas. D'accord? Etc. pour tout. Donc, tu vois que ça marche. Ça marche. Comment ça se fait? Donc on voit qu'il y a quand même un résultat. Au niveau personnel, non. Mais au niveau collectif, c'est clair que ça marche.
La punition ou alors la conséquence. Théorie, la différence essentielle qu'il y a entre la punition et la conséquence, c'est que dans la punition, il y a un punisseur qui punit de façon volontaire et active, dans le but d'éduquer. En ce qui concerne la Torah, il semblerait que c'est plutôt une punition dont on parle. Et quand il nous arrive une galère, qu'on appelle les avérotes. Si Amisraël traverse le fait d'avérotes, il y a une galère ici. C'est pas parce qu'il y a un système qui a été mis en place qu'il n'y a pas de punisseur. Hachem, il est bien derrière, c'est bien lui qui arrive la galère pour l'éduquer.
Il y a un administrateur de ce que tu appelles la punition, de la sanction, de l'administrateur de la souffrance. Mais en aucun cas, jamais, 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 Dieu punit. Ni pour faire mal. C'est-à-dire pour que tu souffres, tiens, t'étais méchant, pan, bien fait pour toi, ni pour, comme tu as dit, éduquer. Jamais de la vie. La souffrance, elle vient réparer. La souffrance, elle est toujours réparation. T'as bousillé quelque chose. Maintenant, il y a une conséquence qui arrive, tac. Il y a un truc qui ne va pas maintenant, t'es bousillé quelque part. Maintenant, pour réparer ça, il y a des choses qui passent par la souffrance, oui. Mais je ne pense pas que Dieu amène sur une personne, pour l'entourage, oui, mais sur une personne maintenant des souffrances pour l'éduquer. Parce qu'il doit mériter cette souffrance.
L'un n'empêche pas l'autre, c'est pas bon.
Oui, ok. D'accord, donc toujours, ça sera pour réparer. Maintenant, en plus, que ça a beaucoup d'effets aussi secondaires, positifs, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas la raison.
Parce que le Rambam, par exemple, il utilise le mot de Ronesh.
Oui, je dis bien que toute la Torah, le Rambam, il dit dans 13 articles de foi, celui qui ne croit pas que Dieu récompense les tzadikim et punit les Rechaim, il ne croit pas dans un des 13 articles de foi. Donc j'ai traduit, j'ai dit, il faut comprendre que la Torah parle en langage enfantin. Mais c'est ridicule de croire que Dieu vient et punit. Pas il punit, ça veut dire Dieu il t'aime maintenant et il voit que maintenant que tu as un problème. Alors tu fais une opération de nettoyage, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Il n'y a pas de onesh, pas de punition. S'il y a une souffrance, elle vient réparer. Il y a des cas où la souffrance ne vient pas réparer, elle vient simplement, comme je dis rapidement auparavant, que des fois, quelqu'un a besoin. Ça dit qu'il peut souffrir maintenant parce qu'il veut un surplus. On va arriver à un niveau beaucoup plus haut. Alors ça se passe par une souffrance, par des efforts. C'est vrai, c'est autre chose encore. On parle maintenant des sanctions, d'accord ? Il n'y a pas de sanction qui ne soit pas réparation. Il n'y a pas de sanction qui ne soit pas réparation. Elle peut aussi, comme a dit Abraham, avoir un rôle éducatif, mais ce ne sera jamais la raison qui l'amènera. La sanction, elle est toujours réparatrice. Maintenant, comme dit le Messiah Tisharim, tu n'as pas de choses plus faciles à acquérir que cela. Parce que la personne, elle s'aime, elle ne veut pas souffrir. L'animal, quand il sent qu'il y a un danger, il fuit. Un être humain, il sent qu'il y a un danger, il fuit. Donc c'est une chose qui est facile. Quand le message me dit facile, ça ne veut pas se dire c'est facile relativement à lui, il lui met la barre très très haut. C'est pas facile non plus, parce que certes, beaucoup de gens savent qu'ils vont faire une avéra et qu'à cause de ça, il peut écoper beaucoup de bêtises dans sa vie. Néanmoins, l'avéra lui dit, bon, allez, juste maintenant, regarde comme je suis sympa. D'accord ? C'est pas facile non plus. Mais néanmoins, c'est relativement facile à acquérir. Il y a une autre ira qui est, elle, beaucoup plus grande, qui est la crainte de Dieu en tant que la grandeur de Dieu dans son immensité, sa royauté absolue, l'infini de Dieu. Et ça, c'est très dur à acquérir. Parce que, d'abord, Dieu, pour beaucoup de personnes, quand on en parle, ça n'a aucun écho au niveau de son cœur. Nous sommes tellement petits qu'on a tendance à rapetissir beaucoup les notions de Dieu qu'on a. Beaucoup de gens imaginent même des visages ou des lumières, des choses, alors que Dieu, c'est immense. Infini. On ne peut pas imaginer l'infini. Mais on doit travailler aussi lentement à acquérir ce degré. Comme j'en ai parlé aujourd'hui à quelqu'un, quand tu rentres chez un grand d'Israël, tu as une certaine crainte. De quoi ? Il ne va pas te flanquer une tarte. Il ne va pas te maudire. T'as une crainte. Ça, c'est en quelque sorte un peu de la crainte de Dieu dont on parle. La vraie grande crainte de Dieu. Qui est celle de sa grandeur. Le moyen de l'acquérir, c'est parler de Dieu. Étudier Dieu. Imaginer sa grandeur. Imaginer notre petitesse. Faire une étude comparative entre la grandeur de Dieu et nous. À ce moment, on se rend compte que comment je peux m'adresser, je peux dire le nom de Dieu. J'ai pensé dernièrement, c'est extraordinaire. On parle dans la prière, on parle à Dieu en le tutoyant. Ata Kadosh, tu es saint. Saint, ça veut dire autre, d'une autre dimension totale. Il est Ata, comme si je parle à mon copain. Même nous, quand on parle à un rave, on ne parle pas au... On dit « Ata Rotze ». Un rave Rotze, le rave veut, on parle à la troisième personne. Kvodo Rotze, son honneur veut. Et quand je parle à Dieu, je ne parle pas à Kvodo, je parle à Ata. C'est extraordinaire comment Dieu nous permet, moi, petit moustique, de m'adresser à Hachem. Oui, une question. Alors, ta question. Tu dis. Tu dis, l'homme, il attend. L'homme attend quelque chose. Alors, il ne fera pas ce qu'il ne faut pas faire de peur de se ramasser une raclée, et il fera ce qui est bien pour en recevoir. Recevoir quoi? Ou ici, les brachot, ou le galen, etc. Bon, ça, c'est ce qui s'appelle. Alors, c'est marqué clairement que c'est valable. On peut servir Dieu ainsi. Mais ce n'est pas la meilleure façon. Quelle est la meilleure façon?
Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque sinon, si je gagne rien, je le fais pas.
Oui, tu gagnes énormément. Mais, enfin, ouais, t'expliques. Laisse-moi finir. Tu y gagnes et tu y gagnes rien. Et comme j'expliquais aussi ça dernièrement à quelqu'un, et ça, c'est peut-être il faut bien comprendre ce que je veux dire. Parce que c'est vraiment la clé des clés de réussite. Et de vraiment bien comprendre. Et beaucoup de gens aujourd'hui quittent la Torah rien que parce qu'ils n'ont pas compris ce principe qui est pas si dur à comprendre. Quelqu'un vient me voir hier, il me dit, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Bon, je peux y gagner, mais c'est pas... C'est enfantin de nouveau. Tu fais, tu recevras. Ok. Pour mieux expliquer cela, à quel point c'est enfantin, si je dis à mon gosse maintenant, étudie ta page de Gemara, tu auras une sucette. Bon, Gemara, sucette, ça marche pas. Ta page de Chumash, tu auras une sucette. D'accord? Tout le monde comprend que le but, c'est pas la sucette. Moi, je veux maintenant qu'il étudie sa page de Gemara, mais la sucette, c'est moyen de l'encourager à faire cela. Ça n'a aucune différence. Si Dieu me dit, fais ma Torah et tu auras Olam Haba, que fais ta page de Chumash, tu auras la sucette. Olam Haba, c'est une grosse sucette, très grande. On aura des grosses langues, on pourra comme ça aller chouiller pour l'infini. La bonne sucette du bon Dieu. Mais c'est la même chose. Et comme on comprend que c'est enfantin de parler à un gosse comme ça, que c'est un langage enfantin, alors aussi, je répète, on est obligé de niveler par le bas et on parle en langage enfantin. Mais, Maïmonide dit, c'est un secret qu'on dévoile lentement. Que c'est certainement pas la meilleure façon de servir Dieu. Toute la Torah, elle est une histoire d'amour. Preuve en est que dans Shema Israël, première chose qu'il te dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. So what? Et alors? Et alors? Et alors quoi? Ve'avta et Hashem, tu l'aimeras. De tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Et Maïmonide dit, et c'est certain que c'est une réalité, que j'espère un jour vous y arriverez, moi aussi, comme un homme qui aime une femme, mais qu'il aime combien? Qu'il s'assoit, il pense à elle. Il se lève, il pense à elle, il mange, il va aux toilettes. Tout ce qu'il fait, c'est le coup de foudre. Le type, il est peuplé au travail. Il a 39 de fièvre, il dégouline, il pense à elle toute la journée. Malade d'amour. Cholat ahava ani, dit dans Shirachirim. Qui cholat ahava ani, je suis malade d'amour. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'une femme, après tout, c'est une femme, c'est un autre être. Tu peux l'aimer à la folie, mais c'est quelqu'un d'autre. Dieu, c'est pas ta chair, j'allais dire, mais c'est ton essence, d'accord? Et c'est clair que l'amour de Dieu est beaucoup plus grand que cela. Une seconde, Raphaël. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à gagner dans l'amour? J'ai rien à gagner. Les deux. Et c'est pour cela que très souvent, tu verras que Chazal, il compare l'amour de Dieu avec le rapport qu'on avait avec une femme. Qu'est-ce que tu as avec une femme? Qu'est-ce que tu as gagné?
On donne et on prend.
Si tu prends, c'est pas d'amour, c'est du business. Si non, tu aimes pour donner...
Le fait de donner, c'est déjà prendre.
Ah, pourquoi? Parce que c'est un kiff génial de donner. Pas pour prendre. De donner pour donner. Oui, mais vas-y, mais kiff, mais Dieu, il nous aime. Mais Dieu, il nous aime. Dieu, il est parfait. Étant parfait, il a créé le monde. Pourquoi? Parce qu'il nous donne le cadeau le plus parfait qu'il puisse y avoir. Quoi? Je te donne l'occasion de m'aimer. C'est pas ta copine, c'est moi. Moi, je suis ta copine. Ça te va? Moi, Hachem, Idbar Archmo. Apprends-moi, allez, dévore. Aime-moi. Alors, c'est l'exemple du coquelicot que je racontais. Quelle heure il est? Bon, mes anciens élèves la connaissent, vous leur faites parce qu'elle est très belle. Les coquelicots. Jaco, tu te balades avec ta fiancée, Frecha. dans un petit village, dans la campagne, en sud de la France, au mois de juin, au mois de mai. Et tu es avec elle comme ça, dans un petit village français, et puis tout collé. Oh, oh, comme c'est beau. Des coquelicots, une colline pleine de coquelicots. Ah. Et toi, t'adores ta fiancée. Tu te retournes, tu vois, magasin de fleurs, bouquet de coquelicots, 3 euros. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vas les cueillir ou tu achètes le bouquet?
Pour la fiancée.
Hein? Le bouquet. T'es un nul. Tu lui dis, frère, attends. Mais Jacques, où tu vas? Attends. Mais où vas-tu? Je reviens. Et tu commences à courir. Mais elle te regarde comme ça. Et tu cours. Une heure aller-retour. Des ronces. De la boue. Ton costume, tu sortais avec Hugo Boss. Déchiré. Tu reviens, frère. Les coquelicots. Jaco, frère, Jaco. Maintenant, t'as souffert, tu saignes, ton costume il est terminé, tu pues de transpiration. Mais t'es malheureux, t'es heureux. T'auras 80 ans, Bezrat Hashem, au moins. Et frère Ra sera à côté de toi, 78 ans, les deux dans le rocking chair. Elle est en train de coudre le feu. Tu lui diras, frère Ra, tu te souviens? Ah, Jaco, les coquelicots. C'est l'acte de bravoure, c'est l'acte le plus beau de ta vie que tu as fait. Et plus tu as souffert, plus tu étais heureux, plus tu étais amoureux. Maintenant, tu ne l'as pas fait dans l'optique du kiff que tu aurais maintenant. Tu ne l'as pas fait dans l'optique du kiff maintenant que tu aurais, de courir et tout ça. Tu l'as fait parce que tu aimais, tu l'aimes, tu veux lui faire plaisir. Quelqu'un veut faire plaisir. Avec la femme, c'est très compliqué parce que très souvent, ce n'est pas Hashem Shamaim. On attend un retour. Mais prends par exemple quelqu'un qui aime sa mère beaucoup. Il y en a comme ça. Et il fait un acte d'amour très grand. Il fait un truc pour sa mère. Mais en le faisant, il souffre, mais il kiffe. Et ça s'appelle Hashem Shamaim. Faire par amour. Nous, Am Israël, Dieu nous aime. Et nous l'aimons. Et nous devons, et c'est ça le but. Je vous mets le but numéro un qu'on travaille parce que ça t'a gagné tout. Le faire par amour de Dieu, par amour de Am Israël. J'expliquais aussi souvent que c'est dur de faire par amour de Dieu parce qu'on ne connaît pas Dieu. Alors il y a un moyen plus facile, c'est par amour du peuple d'Israël. Chaque juif ici, il aime Am Israël. Fais-le maintenant pour le bien d'Israël. Parce qu'Israël, c'est. Dieu Israël, c'est Had. On est unis. Et ça, c'est les Shem Shamaim. Tu t'aimes le matin pour faire prière pour Am Israël, qu'il aille bien pour Am Israël. Regarde, toute la prière, c'est que ça. On prie que pour Am Israël. Le Ganoubina, il dit pourquoi? Parce que Israël, le kavod d'Israël, c'est le kavod de Dieu, c'est la même chose. Quand Israël va mal, c'est Chilou Hashem. On veut les Kadesh, on veut qu'enfin tout le monde reconnaisse qu'on est le peuple de Dieu, on est chéri par Dieu. Fais pour ton peuple. Ça, c'est un acte d'amour. Tu ne penses pas à toi maintenant, à tes petits trucs nuls. Alors le kiff, il vient aussi, après en feedback. Tu es content d'avoir fait cet acte-là, tu es heureux. Mais ce n'est pas la motivation qui t'a poussé à le faire. La motivation, c'est amour. Et ça, c'est la vraie bonne raison de servir Dieu. Qui donne vraiment le vrai Olam Haba. Parce que le Olam Haba, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Alors, quelqu'un voulait une sucette, tu auras une sucette. Mais si tu voulais Dieu lui-même, tu auras Dieu. Qu'est-ce qui est mieux? Sucette géante? Ou Hachem lui-même? Il n'y a pas photo. Oui, Raphaël.
Avec la femme, comme vous l'avez dit, il y a le coup de foule. On tombe amoureux d'elle, donc c'est facile, après on ne réfléchit plus à rien et c'est l'amour qui nous pousse à tout faire.
Ouais.
Mais Dieu, comment le faire venir?
Alors, coup de foudre, vu qu'il vient facilement, il part facilement. Tu connais ça?
Ouais.
C'est archi connu. Les gens, ils tombent amoureux, dingue. Puis après 2 ans, un beau jour, lui ou elle se lève, j'aime plus mon mari, j'aime plus ma femme. Mais t'étais folle, ah, je sais pas. Ce qui vient facilement, part facilement. Dieu veut qu'on arrive à accéder à cela par nos propres forces. Donc il faut investir. Mais c'est possible et c'est facile. Surtout pour les balais de chouva.
Mais comment ?
Les Bachoua, ils n'ont que ça. Un Bachoua, il a que ça. Personne n'est venu ici à l'Eshiva, Bachoua, parce qu'il a peur de l'enfer. D'accord ? Il est venu parce qu'il cherchait la vérité. Tu aimes le peuple d'Israël ?
Oui.
Ouais ? S'il y a une guerre en Israël, tu prierais à Dieu pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de morts. Tu prierais Kavana pour aller au paradis? Non. Par amour d'âme Israël. N'est-ce pas? Donc tu as ça en toi déjà. Tu l'as. Tu m'avais dit que dans l'affaire des juifs, j'aurais un problème. Mais tu l'as. Tu es un amoureux des juifs. Or, comprends que le peuple d'Israël, c'est l'habit dans lequel Dieu, on ne peut pas le voir, mais il a un habit. À Israël. Nous tous, on est quelque part là.
Mais là, vous me donnez un cas où le peuple d'Israël, il est mal.
Mais il est mal.
Mais s'il est normal.
Mais il est mal. Parce que combien de gens sont malades. Combien, tu sais, en quel danger sécuritaire, militaire on est. Combien il y a de maladies. Combien il y a de pauvreté. Combien il y a de divorces. Combien il y a de malheurs.
Mais on ne voit pas tout ça.
Tu vois pas? Ou le journal. C'est une calamité. Ou les nouvelles. C'est une calamité ce qui se passe. Maintenant, ce que tu ne vois pas, c'est comment moi maintenant étudiant la Torah, je peux faire pour que ça aille mieux. Mais ça, ce n'est pas compliqué à prouver. Je peux prouver que la Torah est d'origine divine, que c'est vrai. Je peux prouver très facilement que la Torah est vraie et que la plus grande mitzvah qu'il y a, c'est l'étude de Torah. Alors, étudie maintenant pour ça. J'étudie maintenant pour que Am Israël aille mieux. Je prie maintenant pour que Am Israël aille mieux. Je ne fais pas une bêtise maintenant pour que Israël aille mieux. Fais-le que dans ce but. Tu deviens kadosh, kadosh, kadosh. Tu m'entends? Et après ça, facilement, tu auras le coup de foudre de Dieu. Je te garantis. Dieu va faire, mais tu m'aimes tellement, viens. Il va trouver les portes grandes comme ça. Mais il faut commencer à travailler sur ça. Parce que on reste en cercle fermé, il y a moins, encore moins, encore moins, moins. Ok, petit, minus. Sois grand. Sois un amoureux. Baruch Adonai, l'homme, mais...